face à Duhamel avec ce soir Natacha Polony, la directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel. La réforme des retraites, la discussion est en cours au Sénat. On sera en direct du Palais du Luxembourg d'ailleurs d'ici quelques minutes. Mais Alain, le Sénat, l'ennemi politique du président, est donc devenu son principal allié?
C'est l'histoire d'un renversement d'alliance. Pendant le premier quinquennat, Emmanuel Macron avait une majorité absolue pléthorique à l'Assemblée. Et il avait deux adversaires, Philippe Martinez qui ne voulait pas de sa réforme des retraites à point d'une part, et d'autre part le Sénat qui était le dernier îlot politique de résistance, avec entre eux un contentieux notamment sur l'affaire Benalla, et Gérard Larcher était l'adversaire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a une majorité relative, l'Assemblée nationale devient un champ de mine pour lui, il a deux adversaires, d'une part... Berger, Laurent Berger de la CFDT, qui est le stratège de ceux qui s'opposent à la nouvelle réforme, d'une part, et d'autre part Aurélien Pradier, qui sème la zizanie à droite à l'Assemblée et lui retire toute garantie de l'emporter.
Les deux se sont rencontrés aujourd'hui d'ailleurs,
Berger et Pradier. Justement, il passe alliance avec Gérard Larcher. Bon, alors il faut reconnaître que le Sénat avait en portefeuille une réforme là-dessus, et que la réforme d'Emmanuel Macron, c'est la réforme du Sénat. Bon, c'est, disons, la réforme du Sénat un peu humanisée ici ou là, mais enfin, c'est la réforme du Sénat. Donc, le résultat, c'est qu'il y a une alliance Macron-Larcher pour que, avant jeudi en 8, dans les 8 jours, soient votées les lois. Il reste une incertitude quand même à l'Assemblée.
Oui, bien sûr, il reste une incertitude à l'Assemblée. Et puis, de toute façon, ça ne changera rien au problème de fond. C'est bien ça le souci. C'est-à-dire que je pense que les observateurs et tous les Français qui regardent ce qui est en train de se jouer ont bien compris qu'on était là, en effet, dans la dimension la plus politicienne qui soit de l'usage des institutions. Parce qu'on a quand même entendu de la part de la Macronie absolument pique-pendre sur le Sénat pendant tout le premier quinquennat, que c'était une monstruosité. Et maintenant, c'est le lieu où s'exerce la République. C'est absolument magnifique. Tout le monde est très ému. Enfin, c'est une blague. C'est une totale blague, avec en plus de la part des Républicains, en effet, un moyen de se refaire la cerise parce qu'ils existent au Sénat et que le groupe Les Républicains au Sénat est sur une position de droite libérale conservatrice, alors que les députés Les Républicains sont sur des positions beaucoup plus diverses. On a là un intérêt bien compris, mais en termes démocratiques, ça donne quoi? Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que les institutions actuellement, Sénat compris, ne permettent pas de créer du consensus, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui apaiserait le pays. Donc, en effet, le Sénat va voter. Peu importe, les fractures sont là et il n'y aura pas eu de réponse institutionnelle à cette tension qu'on voit dans le pays.
Alors, moi, je ne crois pas du tout au consensus français possible. D'abord, sur les retraites, jamais les gens ne seront d'accord quand on leur dit qu'on allonge l'âge de la retraite. Je veux dire, ils ont peut-être tort, mais c'est humain. Donc, il n'y aura pas de consensus. Tout gouvernement qui proposera d'allonger l'âge de la retraite sera un gouvernement...
En effet, mais il peut y avoir d'autres réformes de retraite.
En minorité dans l'opinion. Bon, par ailleurs, on sait très bien que l'incapacité française à construire des compromis sociaux est un handicap permanent. C'est pas un handicap Macron, c'est pas un handicap de ce quinquennat, c'est un handicap de l'histoire de la France. On est incapable de construire, on ne construit des compromis sociaux que quand il y a un drame. Bon, alors à la Libération, il y avait eu l'occupation, donc le choc était tel qu'on a vraiment pu construire à ce moment-là un compromis social. Ensuite, depuis, les compromis sociaux, franchement, il faut regarder de près pour essayer d'en trouver, y compris sur des choses quelquefois qui nous paraissent après coup évidentes. Et je reconnais que le fonctionnement des institutions dans cette affaire n'est pas particulièrement glorieux. Je suis le premier à souligner que c'est de la tactique politique. La question que je me pose surtout, c'est de savoir ce qui se passera vendredi en 8 prochain. Si par hypothèse, ça a été voté, ce qui est possible à l'Assemblée, disons. Au Sénat, c'est 99 chances sur 100. À l'Assemblée, c'est peut-être 55 chances sur 100. Mais enfin, c'est imaginable. Mais on aura d'un côté ceux qui continueront soit à manifester, soit à essayer de bloquer. Ils seront probablement moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais après tout, on n'en sait rien. On ne sait pas. Pour la première réforme des retraites, ça avait duré 55 jours, les blocages. Exactement. Donc, on n'en est pas là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui restera? Non pas du tout un consensus, il restera un déchirement entre le pouvoir et les Français, ce qui n'est bien ni pour l'un ni pour les autres.
Oui, mais c'est assez amusant, Alain, de vous entendre considérer qu'il ne peut pas y avoir de consensus social puisque personne ne voudra travailler plus. Ça veut dire
que vous partez du principe
qu'il ne peut y avoir de réforme de retraite que dans un allongement, alors même que vous étiez pour la réforme à point. Mais bien sûr, c'est ce que je viens de rappeler. Donc, il y a
un paradoxe. Pour cette réforme.
Or, on y en revient toujours là, les Français étaient majoritairement pour cette réforme à point.
Et absolument. Là, il y avait des blocages quand même. Il y avait des blocages. La CGT était contre l'âge pivot.
Mais non, la CGT était contre l'âge pivot. Contre l'âge pivot, c'est l'âge pivot qui est venu tout flinguer. Ça passait, peu importe, ça passait. Ça passait. Si on en était resté à la réforme à point, il faut le rappeler et le marteler. C'est Édouard Philippe qui a joué.
Pourquoi vous l'avez martelé?
Natacha et Alain, pourquoi cette réforme à point qui d'ailleurs a été adoptée par 49.3, rappelons-le, et qui ça s'est arrêté avec le Covid. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas remis cette réforme en avant?
Encore une fois, c'est là tout le mystère, et ce mystère est très lié à notre sujet du jour. Ce mystère est très lié à notre sujet du jour, c'est-à-dire le basculement progressif du macronisme vers la droite, et donc le besoin de s'allier avec les Républicains, en particulier les Républicains du Sénat, tout simplement parce que l'électorat macroniste actuel, c'est l'électorat de la droite.
Je peux nuancer. Qui est une évolution vers la droite, je ne dis pas le contraire. Qu'Emmanuel Macron dépend aujourd'hui beaucoup plus de la droite que ça n'était le cas pendant le premier quinquennat, c'est l'évidence. Bon, pour le reste, en ce qui concerne la réforme à point, moi je ne demanderai qu'une chose, c'est qu'on l'ait reprise. Mais la réforme à point, dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, ça ne passerait pas.
On a tourné la page de la réforme à point. Est-ce que les Français ont du mal à comprendre, c'est pourquoi ça se passe bien avec la droite au Sénat, pourquoi ça se passe mal avec la droite à l'Assemblée nationale, alors que c'est la même famille politique, tout ce beau monde doit marcher ensemble.
Alors là, pour le coup, il y a un côté social et il y a un côté politicien. Le côté social, c'est que, en gros, les sénateurs sont des représentants de la France modérée, conservatrice, provinciale, traditionnelle.
Ils ne sont pas directement en contact avec leurs électeurs, contrairement aux députés aussi.
Ils peuvent être en contact quand même, parce que ce sont des élus locaux importants. Mais enfin, ils sont très typés sur un plan social. Bon, les républicains qui sont à l'Assemblée nationale, il y en a de deux types. Il y a des républicains qui sont en gros dans des zones rurales et qui sont en fait contre cette réforme-là parce que leur électorat est contre cette réforme.
Monsieur Pradier, par exemple, qui est député du Lot.
Absolument.
Monsieur Dumont aussi.
Oui, c'est ça, absolument. Puis en simplifiant.
Monsieur Cordier dans les Ardennes.
Les amis de Xavier Bertrand. Voilà. Et. Pas officiellement, mais officieusement, une bonne partie des amis de Laurent Wauquiez. Là, on est vraiment dans la politique la plus politique.
Donc il y a un calcul aussi politique
Non, il y a une division, c'est-à-dire que l'élection d'Éric Ciotti, au lieu d'avoir réunifié les Républicains, en fait, s'est traduit aujourd'hui par une nouvelle division. Ils ont à peine élu leur président que maintenant, il y a deux ailes avec deux stratégies correspondant à deux électorats. Vous voyez, je vous disais, en France, c'est difficile de faire le consensus, mais même au sein d'un parti, c'est difficile.
C'est pour des raisons différentes. Personne n'a envie, parmi tous ces gens, d'obtenir un consensus. Et pour une raison simple, en effet, vous le disiez, il y a une dimension qui est une dimension politicienne, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne veulent pas insulter l'avenir, et pour ne pas insulter l'avenir, il vaut mieux se distinguer du macronisme, donc en prenant une position qui est une position contre cette réforme, ou en tout cas en ne sortant pas du bois, ça c'est plutôt du côté de Laurent Wauquiez.
Et ceux qui veulent préparer leur avenir, comme Aurélien Pradier.
Mais Cela dit, et nous en avons déjà discuté ici même, il y a aussi une dimension authentiquement idéologique. Il y a toujours eu un courant de droite sociale qui est parfaitement légitime. Aurélien Pradier prétend en faire partie, je lui fais quitus.
Écoutez,
Xavier Bertrand a toujours prétendu en faire partie.
Les héritiers de Philippe Séguin, par exemple.
Il y a une droite sociale, en effet, qui est dans la continuité de ce qu'a été le séguinisme et qui ne définit pas de la même manière les impératifs qui sont des impératifs budgétaires qu'on pourrait régler d'une autre façon.
Alors, je suis d'accord en ce qui concerne Xavier Bertrand, le droit social, ça a toujours été son cap, donc il est tout parfaitement honorable. En ce qui concerne Aurélien Pradier, il ne faut quand même pas oublier qu'il était porte-parole de Valérie Pécresse qui voulait élever l'âge de la retraite à 65 ans et que ça date encore de novembre dernier. Alors, il ne faut pas nous en faire l'espèce d'homme propre arrivant et incarnant une droite sociale.
Je n'ai pas dit ça.
Moi
non plus. J'ai dit qu'il y a chez lui certainement un mélange de convictions et d'ambitions bien comprises et que, en tout cas,
le café et le sucre.
Il ne faut pas réduire la droite à une dimension libérale conservatrice qui est une des voies de la droite. Or, le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un macronisme qui, en fait, a pour électorat cet électorat qui est celui de la droite
libérale,
pas forcément conservatrice, plutôt la libérale européenne. Moins conservatrice, mais en tout cas, in fine, qu'on soit conservateur ou pas conservateur, en général, entre libéraux, on finit par s'entendre sur les questions économiques, ça finit toujours comme ça. Que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche, c'est toujours la question du portefeuille qui fait qu'on est d'accord, les libéraux se retrouvent entre eux, et on le voit entre les macronistes et LR. À l'exception de ceux qui peut-être essayent d'exister, mais qui essayent d'exister aussi.
Et qui peuvent
aussi,
faire la différence.
Qui peuvent faire la différence et qui essayent d'exister aussi parce qu'ils ont compris, sans doute, qu'il y a un énorme problème démocratique, j'y insiste, c'est-à-dire la question de savoir comment on fait avec 70% de Français qui sont opposés, qui continuent à être opposés à cette réforme, alors même qu'ils l'ont comprise, qu'ils y ont réfléchi, qu'il y a eu du débat.
Ce n'est pas
de l'opinion. Les 70% qui sont contre, c'est de la conviction. Donc,
c'est du refus.
Où est la légitimité ? Oui, c'est la conviction. La conviction que cette réforme est injuste.
C'est absolument dont ils n'en veulent pas.
Il y avait d'autres solutions possibles, et là, nous sommes en train de nous enfermer tous dans une espèce de corner.
Donc, on va dans le mur.
C'est la République qui va dans le mur. Qui va gagner ? Qui va être gagnant de cette séquence ?
Alors, si on prend le mur, qui va taper dans le mur ?
C'est bien ça le problème. Le problème, c'est pour qui vont voter ? Tous les gens qui, aujourd'hui, vont nourrir une rancœur fondamentale contre le processus démocratique, parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'on fasse, même quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui défilent dans le plus calmement possible avec des syndicats qui sont unis, eh bien, ça ne débouche sur rien.
Et
c'est
qui a
ça,
le mur, alors
voilà.
Je pense que vendredi en 8 prochain, en France, il n'y aura que des vaincus. Je pense que le gouvernement sera plus impopulaire.
Même si la loi est votée, 149.
Absolument. Je pense que le gouvernement demeurera très impopulaire et que la majorité des gens leur en voudront durablement. Je pense que si... par hypothèse, mais c'est quand même le plus probable, la réforme est votée, les Français seront ulcérés, dépités et incompréhensifs.
Encore pire si c'est le 43.
Bon, mais bien entendu. Et donc, il n'y aura que des perdants. Il y aura des perdants si la réforme est votée, et il y aura des perdants si ceux qui la font voter sont des perdants, et ils seront des perdants.
Il n'y aura pas quand même des gagnants du côté des syndicats, parce que pendant quand même des années, on nous a expliqué que les corps intermédiaires, c'était fini, que les syndicats, c'était ringard. On voit bien quand même que, à la fois Laurent Berger et Philippe Martinez, qui vont d'ailleurs quitter la scène, à la CFDT, la CGT.
Laurent Berger, pas tout de suite.
Pas tout de suite, mais on redorait le blason syndical, quelle que soit l'issue de ce conflit, quand même.
On s'aperçoit quand même que ça sert à quelque chose, les corps intermédiaires. Que ça sert à quelque chose
quand même.
D'avoir, et que finalement, alors même qu'il n'y a plus aucun travail de formation dans les partis politiques où ça devient le grand n'importe quoi et la foire d'empoigne et l'inculture généralisée, vous avez encore un travail de formation dans les syndicats. Certes, il y a des troupes qui ne sont pas forcément tenues, il y a des dérapages, mais enfin, globalement, il reste encore quelque chose qui permet de canaliser un petit peu la volonté collective et de faire en sorte que tout ça débouche sur un discours à peu près construit. C'est tout de même important dans la mesure où les corps intermédiaires ont été plutôt maltraités ces dernières années.
Alors, c'est très bien que les syndicats soient revalorisés, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas oublier qu'en France, ils sont quand même exceptionnellement faibles.
Oui. Hein,
10,3%.
Il n'y a pas d'obligation.
10,3%. Il y a beaucoup de pays autour de nous où c'est du 30%. Ouais, c'est quelquefois plus quand il y a des
parfois
incitations.
Parce que c'est obligatoire d'être syndiqué aussi.
Non, oui, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les pays qui nous entourent. On a un syndicalisme faible, il ne faut pas dire le contraire. Il a été très fort. Le syndicalisme français dans les années 50-60 était très fort. Aujourd'hui, il est très faible. Qu'il soit revalorisé, c'est une bonne chose. Qu'en plus, la stratégie de Laurent Berger était, disons, à la fois très oppositionnelle, mais très responsable et démocratique, avec des moyens démocratiques utilisés, c'est aussi une bonne chose. Mais ça ne suffira pas pour soigner les plaies qui vont exister à la suite de cette réforme. Et ces plaies, eh ben, elles seront douloureuses pour tout le monde.
Merci Alain, merci Natacha Polony. La une de Marianne.
Plus que 500 jours avant les JO de l'enfer. Et on vous explique tous les problèmes que ça va poser en termes de sécurité, en termes de logement. C'est absolument terrifiant.
Eh bien.
Ce sera à lire, bien sûr. Merci Natacha Polony.